Rencontre avec Loïc Barrière sur Radio Orient.
L'invité de rencontre est Slim Meherzi, vice-président du parti tunisien Afek Tounes, ancien maire de la Marsa. Bonjour.
Bonjour, bien bonjour à vous et à l'ensemble des auditrices et auditeurs de Radio Orient. C'est vraiment un plaisir, un honneur de donner mon avis et de vous écouter sur votre chaîne.
Merci Monsieur Meherzi. Alors vous êtes de passage en France pour rencontrer les Tunisiens présents dans l'Hexagone. C'est l'occasion de vous interroger sur la situation politique et économique. Nous allons commencer par la feuille de route proposée par le chef de l'État depuis le 25 juillet. Comment accueillez-vous les décisions prises par le président Kais Saied, le maintien de la suspension du Parlement et un projet de référendum ?
Si vous reconnaissez que nous vivons une situation politique compliquée, une crise socio-économique qui est réelle, hein, et là on va sur un régime présidentiel personnalisé sans réel contre-pouvoir. C'est notre réalité, ben, on doit l'assumer et que chacun prenne ses responsabilités.
Un régime personnel, vous voulez dire que l'opposition actuellement n'est pas associée au processus voulu par Kais Saied ?
Nous, en tant que parti politique, en tant qu'Afek Tounes, nous avons soutenu, faisons partie des mouvements et des partis politiques et, qui avons soutenu le 25 juillet. Quel 25 juillet a dit stop à une véritable mascarade politique, puisque, et la preuve est, c'est que l'ensemble, une grande majorité du peuple tunisien a été déçu parce que le rapportait le paysage politique. Nous avons été parmi ceux et celles qui avons soutenu ce 25 juillet, considérant que l'article 80 était parfaitement conforme à la Constitution, mais nous n'avons certainement pas soutenu ce qui s'est passé en décembre, c'est-à-dire les décrets 117 qui donnent les pleins pouvoirs à une personne en Tunisie, ce qui est un véritable risque pour notre démocratie qui est en cours de construction.
Vous parlez de risque pour la démocratie, Slim Meherzi. Vous redoutez le retour d'un régime dictatorial? Ça peut aller jusque-là?
Écoutez, on va, dans l'avenir, nous le dira, d'autant plus que le président de la République a enfin daigné nous mettre en place sa feuille de route, qui se résume en trois points. Une première échéance qui serait pour le 25 mars, la seconde pour le 20 mars, pardon, la seconde pour le 25 juillet, et enfin des élections pour fin décembre. Donc on considère qu'aujourd'hui, on est plus dans une situation de stand-by, mais on considère aussi qu'on a le droit de nous exprimer et d'exposer notre position, nos avis à l'ensemble du peuple tunisien.
Est-ce que les partis politiques tunisiens peuvent s'exprimer librement actuellement en Tunisie ?
Oui, sincèrement, oui, on le fait. Le problème qui s'est posé, c'est que la Tunisie, le 14 janvier, on fait partie des partis politiques qui croyons véritablement qu'il y a une révolution dans ce pays le 17 décembre, le 14 janvier, hein, c'est comme on veut, et donc puisqu'on est passé d'un système autocratique à un système plus démocratique. Et incontestablement aujourd'hui, on peut parler en Tunisie, on peut donner notre avis, on peut s'exprimer, est-ce qu'on peut être entendu ou pas, ça c'est un autre problème, mais incontestablement, il faut reconnaître on peut encore aujourd'hui exprimer nos idées et qu'on n'est pas dans une véritable dictature.
Certains responsables politiques ont été condamnés par la justice. Je pense par exemple à l'ancien président Marzouki. Vous considérez que la justice est totalement indépendante ou bien qu'il s'agit de procès politiques ?
Je vais dire deux mots sur le sujet. La première des choses, je considère que l'ancien président de la République, qui représentait l'État tunisien, n'avait pas à s'exprimer ensuite et allait pousser à ce qu'on n'aide pas la Tunisie. Mais ça, c'est un avis personnel, c'est l'avis du parti. D'un autre côté, on considère que la justice doit être au-dessus des partis politiques et au-dessus de la vie partis politiques en Tunisie. Est-ce que aujourd'hui cette justice est indépendante? Je pense oui, mais c'est vrai que on a le droit de se poser des questions quand monsieur Marzouki a été est passé en justice un peu trop vite par rapport à l'habitude. Voilà.
Slim Merzi, une grande consultation électronique voulue par le président Kais Saied a commencé, elle continuera jusqu'au 20 mars prochain. L'objectif est de recueillir l'avis des Tunisiens sur l'avenir du pays. Que pensez-vous de cette initiative ?
Ce que nous pensons en premier, c'est que il faut revenir au 25 juillet. Le 25 juillet a donné énormément d'espoir à une grande majorité du peuple tunisien. Et personne n'a le monopole du peuple tunisien. Donc, juste après, on s'attendait à ce que... Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que il n'était pas possible de continuer avec un pouvoir exécutif à deux têtes qui s'entretuaient, qui étaient M. Messisi d'un côté et le président de la République, et d'un autre côté avec une assemblée législative qui était vraiment le contre-exemple de ce qu'il fallait faire dans une démocratie. Je rappelle toutes ces violences qui se sont passées, notamment à l'encontre des femmes. Je rappelle que Samir Abou, qui fait pas partie de mon parti, Abid Moussi, qui ne l'est pas aussi, se sont fait agresser physiquement avec un président de l'Assemblée qui s'est retrouvé à être plus, à faire le neutre, à faire comme s'il n'a rien vu. Et ça a choqué bon nombre de Tunisiens. Donc, la réaction du président de la République a été une réaction salvatrice. Mais ce qu'on s'attendait, nous, et ce qu'on a demandé, nous, c'est que juste après, il y ait comme des états généraux sur deux sujets essentiels, des sujets politiques, et donc il fallait, et on a demandé au président de la République de faire appel aux organisations nationales, la Ligue des droits de l'homme, les femmes démocrates, et j'en passe, à nos partenaires sociaux, le JPP, le Tikariot, à la société civile, surtout les associations des jeunes, des femmes et les associations des régions qui ont le droit d'exister aujourd'hui et qui ont été un temps soit mobilisées, le gouvernement et les partis politiques qui reconnaissaient le 25 juillet. Et tous ensemble, ils avaient deux rôles d'après moi et d'après nous plutôt. C'était un, de faire des assises politiques pour discuter d'un éventuel système politique, pour discuter d'une nouvelle loi électorale, pour discuter de la loi des partis politiques. Le véritable sujet aujourd'hui, c'est les finances de ces différents partis politiques. La loi des associations, et on en passe, d'un côté, et aussi pour discuter, faire des états généraux des problèmes socio-économiques qui aujourd'hui risquent de faire que la Tunisie aille vers un système dictatorial, quels que soient les gens qui sont à la tête de sa dictature.
Najla Bouden, la première ministre tunisienne et la première femme à diriger un gouvernement dans le monde arabe. Slim Merzi, après plus de 100 jours à la tête du gouvernement, quel bilan faites-vous de son action ?
En premier, c'est une fierté. La Tunisie a toujours été à l'avant-garde de ce genre de protestes, c'est-à-dire avoir une femme aujourd'hui chef du gouvernement. C'était un honneur pour, je pense, la majorité du peuple tunisien, et on est redevable au président de la République qu'il ait nommé une dame de compétence en tant que chef du gouvernement. Mais la réalité, c'est que cette dame-là n'est pas chef du gouvernement, elle est juste un premier ministre, puisque aujourd'hui, toutes les déclarations qui sont faites par le président de la République et non pas par le chef du gouvernement. Donc aujourd'hui, on a une impression d'un régime, comme je disais, présidentiel, qui est assez personnalisé, puisque le président parle de son projet à lui et non pas d'un projet qui peut être ouvert à l'ensemble des Tunisiens. C'est sa décision et on fera en conséquence.
Quelles sont, selon vous, les priorités des Tunisiens qui vivent depuis près de 2 ans des restrictions sanitaires et qui subissent aussi une crise économique et politique sans précédent ?
La réponse va être en premier par rapport aux Tunisiens à l'étranger. Je crois que la solidarité qui s'est faite au moment du Covid par les Tunisiens à l'étranger, quelque chose d'extraordinaire. Et j'insiste ici, puisque je suis en France, pour leur rendre hommage, même si eux n'ont rien vu venir. Mais cette solidarité qui s'est faite au niveau des associations, au niveau des personnes elles-mêmes, comment elles ont aidé leur pays, était une véritable fierté, et fait qu'ils sont véritablement dignes d'être l'essence de ce qu'on peut faire de mieux en Tunisie. Donc ça, faut vraiment, et c'est pas par pure démagogie, c'est ce que je pense sincèrement. Ça, c'est un point. On a vécu une crise sanitaire incontestable. Mais, incontestablement aussi, on est en train de vivre une crise sociale et économique qui risque d'être dévastatrice pour notre pays. La Tunisie est pour moi et pour nous le centre de gravité de la Méditerranée. On est 10 millions, vous savez, on est l'Île-de-France, tout simplement. Voilà. On est l'Île-de-France et aujourd'hui, il y a une trop grande injustice sociale, une trop grande inégalité. Je vous rappelle que cette révolution, parce que nous, en tant que FR12, on croit en la révolution tunisienne, elle a été faite pour la liberté. On a la liberté, la preuve, c'est que je peux discuter avec vous et rentrer après chez moi en Tunisie. On a la dignité puisqu'on se sent tunisien, mais en matière de politique de l'emploi, en matière de justice sociale, en matière de justice entre régions, rien n'a été fait et il est urgent aujourd'hui de prendre ses responsabilités, qu'on soit dans un parti politique ou pas dans un parti politique. C'est pour ça que la FR12 aujourd'hui travaille sur un véritable New Deal, au sens, New Deal à la Roosevelt, quoi. Un véritable New Deal économique et social qui peut faire que ça aille mieux. Et pour ça, il faut de la solidarité, de la justice sociale et une réelle politique de l'emploi. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On ne pourra jamais avoir de paix sociale sans que ces trois axes ne soient véritablement le sujet essentiel des mois à venir, pour ne pas dire des années à venir, parce que je pense que il nous reste encore un an puisqu'il y a des élections, et après ça risque d'être véritablement compliqué pour notre pays.
Le FMI souhaite que la Tunisie lance des réformes structurelles importantes. De quelles réformes parle-t-on? Est-ce que ce sera douloureux pour les Tunisiens? Est-ce que ce sont des réformes nécessaires?
Je ne pense pas que le FMI soit là pour appauvrir le peuple tunisien. Je pense que le FMI est à nous de prendre nos responsabilités. Je considère que le président de la République et son gouvernement aujourd'hui pouvaient faire appel à tout le monde. Je parle des partenaires sociaux, des organisations nationales, de certains partis politiques qui croient dans le 25 juillet, et dire, voilà, il y a un sujet, on doit avoir de l'argent du FMI pour payer en fait nos dettes. C'est ça ce qui est dramatique. Si on demandait de l'argent au FMI pour des investissements, ça serait quelque chose d'extraordinaire, mais là, on est en train de demander de l'argent pour payer nos dettes. C'est-à-dire, on demande de l'argent à des personnes qu'on doit par la suite payer. C'est un paradoxe extraordinaire et c'est véritablement injuste. Donc aujourd'hui, je crois que on ne peut être véritablement d'avoir un véritable dialogue sincère entre nous et le FMI si, entre nous, nous-mêmes, on n'arrive pas à nous entendre pour montrer que par rapport à ces sujets, au-delà de la politique, au-delà de toute considération, on est un seul et unique peuple représenté par un président, un gouvernement, des partis politiques, des organisations nationales et des partenaires sociaux. Voilà. Je crois que c'est ça l'essentiel. Et si on risque de nous faire de souffrir, puisque notre ministre de la Défense a déclaré que si on n'avait pas, que si les négociations d'ici mars, donc d'ici deux mois, n'aboutissaient pas avec le FMI, notre peuple risquait de souffrir encore plus. Je pense que là, vraiment, on est à la limite de la souffrance. Je ne suis pas en train de demander quoi que ce soit, mais c'est une réalité. Le but essentiel, on ne peut pas rester en démocratie si on voit qu'il y a autant on a une population qui souffre. Celle qui souffrait énormément, ben, souffre encore plus. Et le problème essentiel aujourd'hui, c'est que le Tunisien moyen, la population moyenne qui était l'essence de ce pays, est en train de s'appauvrir énormément. Donc on demande au FMI, quelles que soient nos considérations politiques, de prendre en compte tout ça. Nous sommes 10 millions d'habitants, nous croyons en la démocratie, je crois que c'est être au-delà des considérations politiques.
Slim Merzi, vous avez été maire de la Marsa, une ville proche de Tunis, et vous avez démissionné de votre poste en 2019 car vous aviez jugé que l'État ne voulait pas mettre les moyens nécessaires pour le fonctionnement des collectivités locales. C'est toujours un combat que vous portez aujourd'hui?
Oui, certainement. J'étais avec plusieurs maires là, durant ces derniers jours. Vous savez, je crois que la décentralisation, c'est un des piliers de la démocratie. Le président de la République parle de démocratie locale, de politique de proximité. C'est véritablement cette démocratie locale qui peut représenter un tel projet. Dans ces cas-là, on aurait partagé. Mais la réalité, je vais vous la résumer en deux mots. Au temps de Menali, les collectivités locales étaient entre les mains du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, vis repetita, les collectivités locales reviennent dans les mains du ministère de l'Intérieur. Pire que ça, on nous a offert ce rêve de décentralisation alors qu'on avait les mains liées, puisque d'un côté, les finances de la commune étaient sous le contrôle direct et selon le bon vouloir du ministère des Finances, et le côté sécuritaire, je ne parle pas de la sécurité nationale, je parle de la police municipale, était un département du ministère de l'Intérieur. Donc on ne peut pas aujourd'hui, moi j'avais promis de rester un an et de faire un bilan. Dans mon bilan, j'ai vu que je ne pouvais pas assumer mes promesses. Par contre, ce qui était très important pour moi, c'est que j'avais promis de ne pas m'allier avec NAD et avec des islamistes, et à aucun moment je me suis allié avec NAD et des islamistes, et ça sera la promesse de la section de choses.
Dernière question, Slim Merzi, vous êtes de passage en France. Qu'attendez-vous des Tunisiens dans la construction de la Tunisie de demain? Vous avez parlé de leur rôle essentiel dans l'aide aux Tunisiens durant la crise sanitaire.
Je vais vous dire, en gros, on est à peu près 750 000 Tunisiens en France. Les Tunisiens ont ramené ou envoyé à peu près 1300 millions d'euros jusqu'à fin 2021. Vous imaginez le chiffre, c'est-à-dire c'est plus que ce qu'ont rapporté les touristes étrangers qui sont toujours les bienvenus chez nous à la Tunisie. Grâce à cette diaspora, c'est grâce à elle que l'État arrive en fait à préserver un certain niveau de ses avoirs en devise. Mais la véritable question, qu'est-ce que nous en tant que Tunisiens qui habitant en Tunisie, que ce soit gouvernement ou non, qu'est-ce qu'on donne à nos concitoyens? Vous savez que je vais vous donner une estimation qui me semble moins injuste. Tunisair, qui est une chaîne, qui est une compagnie donc nationale, le billet d'avion durant les périodes de vacances est autour de 500 euros. Il y a une famille de 4 personnes, ils ne peuvent pas rentrer en Tunisie. Et ça, c'est injuste, alors qu'ils donnent beaucoup à la Tunisie. Et nous, on considère qu'on doit, un, être à leur disposition, parce que c'est des Tunisiens. Deux, il faut qu'on améliore la qualité de notre service consulaire pour qu'ils se sentent véritablement Tunisiens. Et quand ils vont au consulat, ils sont reçus comme des rois, tout simplement. Maintenant, la véritable question qui se pose par rapport à la France. Nous avons un fort taux d'immigration. Et quand on voit la campagne présidentielle française, je vous cache pas que il y a un peu d'ironie quelque part. Parce qu'il y a l'immigration légale et il y a l'immigration illégale. En 5 ans, il y a eu 3500 médecins qui ont immigré et qui ont été accueillis à bras ouverts. Il y a eu 40 000 ingénieurs qui ont immigré. Vous savez combien coûte à la Tunisie un médecin spécialiste? Il coûte 250 000 dinars, c'est à peu près 100 000 euros. La France ne donne rien pour ça. La France se plaint qu'il y ait des immigrés qui viennent en situation irrégulière. Il faut qu'il y ait une certaine justice et un certain équilibre. Et j'espère que nos amis français sauront en tenir compte. Maintenant, aujourd'hui, le drame que moi, je suis en train de vivre, et mon parti est en train de vivre, et l'ensemble des Tunisiens est en train de vivre, il se pose en deux questions. Il n'est pas possible que plus de 50% de notre jeunesse soit émigrée à la plus d'espoir pour son pays. C'est-à-dire, soit ils émigrent avec l'avion, s'ils ont des diplômes, soit ils émigrent par la mer. Certains d'entre eux meurent. Ils ont une famille. Et ça, il faut qu'on en tienne compte. Il faut qu'on se batte pour qu'ils puissent bien vivre en Tunisie. Moi, je fais partie des gens qui avaient fait mes études en France. La première des envies que j'avais, c'est de rentrer chez moi. Je ne regrette pas. Et donc, je dois aujourd'hui rendre ce que m'a donné mon pays, c'est-à-dire me battre pour lui, pour que ce soit plus juste, que ce soit à Ben Gueldin, à Ras des Mèvres, à La Marsa, à Sousse ou ailleurs. Nous sommes 10 millions. On ne peut pas être disloqués en plusieurs centaines de milliers. On ne peut que raisonner comme un seul peuple.
Merci Slim Merzi. Je rappelle que vous êtes vice-président du parti AFEC Tounes et ancien maire de la Marsa. Merci d'avoir été l'invité de rencontre.
Je vous en prie et bonne chance pour les élections.